Chapitre 12. Décadence et chute des Carlovingiens. De la mort de Charlemagne à l'avènement de Hugues Capet, c'est-à-dire de l'an 814 à l'an 987, 13 rois ont occupé le trône de France. Que sont devenus sous leur règne et dans le cours de ces 173 ans les deux grands faits qui avaient dominé dans la pensée et rempli la vie de Charlemagne? La solide fondation territoriale du royaume de la France chrétienne par la répression efficace des invasions étrangères et l'unité de ce vaste empire dans lequel Charlemagne avait tenté et espéré de ressusciter l'Empire romain. Le sort de ces deux faits est l'histoire même de la France sous la dynastie carlovingienne. C'est la seule partie des événements de cette époque qui mérite encore aujourd'hui l'attention, car c'est la seule qui ait exercé sur l'histoire générale de la France une grande et durable influence. Les tentatives d'invasion étrangère en France se renouvelèrent bien souvent et sur bien des points du territoire gallo-franc pendant toute la durée de la dynastie carlovingienne, et même en échouant, elles firent subir à la population du royaume de cruels ravages. Charlemagne, même après ses succès contre les divers envahisseurs barbares, avait prévu les maux qu'infligeraient à la France les plus redoutables et les plus obstinés d'entre eux, les Normands, venus par mer et d'abord sur nos côtes. Le plus contemporain et le plus détaillé de ses chroniqueurs, le moine de Saint-Gall, raconte en termes prolixes et pompeux, mais évidemment émus et sincères, la prévoyance du grand empereur. Charles, qui toujours était en course, dit-il, arriva par hasard et inopinément dans une certaine ville de la Gaule narbonnaise. Pendant qu'il dînait et n'était encore connu de personne, des corsaires normands vinrent exercer leur piraterie jusque dans le port. Et quand on aperçut leur vaisseau, on prétendit que c'était des marchands juifs selon ceux-ci, africains selon cela, bretons aux sentiments des autres. Mais l'habile monarque, reconnaissant à la construction et à l'agilité des bâtiments qu'il portait, non des marchands mais des ennemis, dit aux siens « Ces vaisseaux ne sont point chargés de marchandises, mais remplis de cruels ennemis. » À ces mots, tous les Francs, à l'envie les uns des autres, courent à leurs navires, mais inutilement. Les Normands, en effet, apprenant que là était celui qu'ils avaient encore coutume d'appeler Charles le Marteau, craignirent que toute leur flotte ne fût prise ou détruite dans ce port, et ils évitèrent par une fuite d'une inconcevable rapidité non seulement les glaives, mais même les yeux de ceux qui les poursuivaient. Le religieux Charles, cependant saisi d'une juste crainte, se leva de table et se mit à la fenêtre qui regardait l'Orient, et y demeura longtemps, les yeux pleins de larmes. Personne n'osant l'interroger, ce prince belliqueux expliqua aux grands qui l'entouraient la cause de son action et de ses larmes. « Savez-vous, mes fidèles, pourquoi je pleure si amèrement? Certes, je ne crains pas que ces hommes réussissent à me nuire par leur misérable piraterie, mais je m'afflige profondément que, moi vivant, ils aient été prêts de toucher ce rivage et je suis pris d'un violent chagrin. » Car je prévois de quels maux ils accableront mes descendants et leur peuple. » La prévoyance et la tristesse de Charlemagne n'étaient pas excessives. Je trouve spécialement mentionnées dans les chroniques des 9e et 10e siècles 47 incursions en France des pirates norvégiens, danois, suédois, irlandais, tous compris sous le nom de Normands, et sans doute beaucoup d'autres incursions moins graves n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Les Normands, dit M. Foriel, descendirent du nord au midi par une sorte de gradation ou d'échelle naturelle. L'Escaut fut le premier fleuve par l'embouchure duquel ils pénétrèrent dans les terres. La Seine fut le second, la Loire le troisième. La progression était menaçante pour les pays traversés par la Garonne. Ce fut en 844 que des barques chargées de Normands remontèrent pour la première fois ce dernier fleuve jusque fort avant dans les terres et y firent un immense butin. L'année suivante, ils pillèrent et brûlèrent Saintes. En 846, ils s'avancèrent jusqu'à Limoges. Les habitants ne se trouvaient pas en état de faire face aux intrépides pirates. Ils leur abandonnèrent leur foyer avec tout ce qu'ils n'eurent pas le loisir d'emporter. Encouragés par ces succès, les Normands reparurent l'année suivante sur les côtes et dans les fleuves de l'Aquitaine. Ils essayèrent de prendre Bordeaux, d'où ils furent vaillamment repoussés par les habitants. Mais en 848, ayant assiégé de nouveau cette ville, ils y furent introduits de nuit par les Juifs qui étaient en grand nombre. La ville fut livrée au pillage et aux flammes, une partie de la population dispersée, l'autre égorgée. Tours, Rouen, Angers, Orléans, Meaux, Toulouse, Saint-Lô, Bayeux, Évreux, Nantes, Beauvais, quelques-unes à plusieurs reprises eurent le sort de Saintes, Limoges et Bordeaux. Les monastères et les églises, où ils espéraient trouver des trésors, étaient l'objet favori des entreprises des Normands. Ils pillèrent spécialement aux portes de Paris, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et celle de Saint-Denis, dont ils emmenèrent l'abbé qui ne put se racheter que par une forte rançon. Ils pénétrèrent plus d'une fois dans Paris même et en mirent plusieurs quartiers à contribution ou au pillage. Les populations s'accoutumèrent à souffrir et à fuir. Les seigneurs locaux, les rois même, s'arrangeaient quelquefois avec les pirates, soit pour soustraire les domaines royaux à leurs ravages, soit pour avoir leur part. En 850, Pépin, roi d'Aquitaine et frère de Charles le Chauve, entra en intelligence avec les Normands, qui avaient remonté la Garonne et menacé Toulouse. Ils y arrivèrent sous sa conduite, dit M. Foriel, ils l'assiégèrent, la prirent et la pillèrent. Non pas à demi, non pas à la hâte, en gens qui craignent d'être surpris, mais à loisir, en toute sécurité, en vertu d'un traité d'alliance avec l'un des rois du pays. Il n'y eut dans toute l'Aquitaine qu'un cri d'indignation contre Pépin, et la popularité de Charles s'accrut de toute l'horreur qu'inspira le méfait inouï de son adversaire. Charles le Chauve lui-même, s'il ne s'alliait pas comme Pépin avec les envahisseurs, ne s'intéressait guère au sort des populations et ne prenait guère plus de peine pour les protéger, car l'archevêque de Reims, Ingmar, lui écrivit en 859 « Beaucoup de gens disent que vous dites sans cesse que vous n'avez pas à vous mêler de ces déprédations et de ces rapines, et que chacun n'a qu'à se défendre comme il pourra. Je n'ai garde, mes enfants, de vous raconter ni seulement d'énumérer toutes ces incursions normandes et leurs incidents monotones. Je vous en ai signalé la fréquence et le caractère général. C'est tout ce que leur doit l'histoire. Il y en a trois, cependant, sur lesquels je veux vous arrêter un moment, à raison soit de leurs graves conséquences historiques, soit des détails dramatiques qui nous en ont été transmis. Au milieu et dans la dernière moitié du IXe siècle, un chef normand, Hasting ou Hasting, parut à plusieurs reprises sur les côtes et dans les fleuves de France avec de nombreuses barques et une bande. Il avait aussi avec lui, disent les chroniques, un jeune prince norvégien ou danois, Bjørn, dit « Côte de fer », qu'il avait élevé et qui avait mieux aimé s'associer aux aventures de son gouverneur que vivre tranquille auprès du roi son père. Après plusieurs expéditions dans la France occidentale, Hasting devint l'objet de terribles récits et très probablement fabuleux. Il poussa, dit-on, ses courses jusque dans la Méditerranée et, arrivé sur les côtes de Toscane, en vue d'une ville que, dans son ignorance, il prit pour Rome, il résolut de la piller. Mais, ne se sentant pas assez fort pour l'envahir d'assaut, il s'adressa à l'évêque, se dit très malade, touché du désir de devenir chrétien, et lui demanda le baptême. Quelques jours après, ses compagnons répandirent le bruit qu'il était mort et réclamèrent pour lui les honneurs d'une sépulture solennelle. L'évêque y consentit. Le cercueil de Hasting fut transporté dans l'église, accompagné d'un grand nombre des siens, sans armes apparentes. Mais, au milieu de la cérémonie, Hasting s'élança tout à coup, l'épée à la main, hors de son cercueil. Ses compagnons déployèrent leurs armes cachées, fermèrent les portes de l'église, tuèrent les prêtres, pillèrent les trésors ecclésiastiques et se rembarquèrent sous les yeux d'une population stupéfaite pour aller reprendre sur les côtes de France leurs incursions et leurs ravages. Vrai ou faux, ces bruits des ruses hardies et des expéditions lointaines de Hasting aggravaient l'effroi qu'inspirait son apparition. Il pénétra dans l'intérieur des terres en Poitou, en Anjou, en Bretagne, le long de la Seine, pilla les monastères de Jumièges, de Saint-Vendry, de Saint-Évroul, s'empara de Chartres et parut devant Paris, où Charles le Chauve, retranché à Saint-Denis, délibérait avec ses prélats et ses barons sur la question de savoir comment il pourrait résister aux Normands ou traiter avec eux. La chronique dit que les barons conseillaient la résistance, mais que le roi préféra la négociation. Il envoya l'abbé de Saint-Denis, lequel très sage homme était, à Hastings qui, après longue parlementation et moyennant grands dons et promesses, consentit à cesser ses courses, à se faire chrétien et à s'établir dans le comté de Chartres, que le roi lui donna héréditairement avec toutes ses appartenances. Selon d'autres récits, ce fut seulement quelques années plus tard et sous le jeune roi Louis III, petit-fils de Charles le Chauve, que Hastings fut amené, soit par quelques échecs, soit à prix d'argent, à cesser toute piraterie et à accepter en échange le comté de Chartres. Quoi qu'il en soit de la date, il fut, si je ne me trompe, le premier chef normand qui renonça à la vie d'aventure et de pillage pour devenir en France grand propriétaire et comte du roi. Le prince Bierne se sépara alors de son gouverneur et reprit la mer, chargé d'un si riche butin qu'il ne pouvait jamais avoir besoin de richesse, mais une tempête engloutit une grande partie de sa flotte et le jeta en Frise, où il décéda bientôt après, ce dont Hastings fut très dolent. Un plus grand chef normand que Hastings devait bientôt suivre son exemple et fonder en France la Normandie. Mais avant que Rolf, c'est-à-dire Roland, vînt donner le nom de sa race à une province française, les pirates normands devaient encore tenter en France un grand coup et subir un grand échec. En novembre 885, sous le règne de Charles le Gros, après avoir depuis plus de 40 ans ravagé anarchiquement la France, ils résolurent de réunir leurs forces pour s'emparer enfin de Paris, dont ils avaient si souvent pillé les faubourgs sans avoir pu entrer au cœur de la place, dans l'île de la Cité, qui avait été dans l'origine et était encore le vrai Paris. Deux corps de troupes se mirent en mouvement. L'un, commandé par Roland, déjà célèbre parmi ses compagnons, marcha sur Rouen. L'autre remonta immédiatement le cours de la Seine sous les ordres de Siegfried, que les Romains appelaient leur roi. Roland s'empara de Rouen et poussa aussitôt sur Paris. Le général des troupes gallo-franques, le duc Renaud, alla à sa rencontre sur les bords de l'Eure et lui envoya pour sonder ses desseins le nouveau comte de Chartres, Hastings. « Vaillant guerrier, dit Hastings à Roland, d'où venez-vous? Que cherchez-vous ici? Quel est le nom de votre seigneur? Dites-le-nous. Nous sommes envoyés vers vous par le roi des Francs. » « Nous sommes Danois, lui répondit Roland, tous également maîtres entre nous. Nous venons expulser les habitants de cette terre et nous la soumettre comme notre patrie. Mais qui es-tu, toi, qui nous parles si lestement ? Vous avez quelquefois entendu parler d'un certain Hastings qui, sorti de chez vous, est venu ici avec beaucoup de navires et a fait un grand désert d'une grande partie du royaume des Francs. Oui, dit Roland, nous en avons entendu parler. Hastings a bien commencé et mal fini. Voulez-vous vous soumettre au roi Charles ? Demanda Hastings. Nous ne nous soumettrons à personne. Tout ce que nous prendrons par nos armes, nous le garderons comme notre droit. « Va dire cela, si tu veux, au roi dont tu te glorifies d'être l'envoyé. » Hastings retourna à l'armée gallo-franque et Roland se mit en marche sur Paris. Hastings était revenu un peu troublé. Il y avait parmi les Francs un comte Thébold ou Thibault qui avait une grande envie du comté de Chartres. « Pourquoi t'endors-tu mollement ? » dit-il à Hastings. « Ignores-tu que le roi Charles veut ta mort à cause de tout le sang chrétien que jadis tu as injustement répandu ? Souviens-toi des maux que tu lui as faits et à raison desquels il veut te chasser de sa terre. Prends garde à toi pour n'être pas frappé à l'improviste. » Hastings, effrayé, vendit aussitôt la ville de Chartres à Thébold et, enlevant tout ce qui lui appartenait, il partit pour aller reprendre, à ce qu'il paraît, son ancien métier. Le 25 novembre 885, toutes les forces des Normands étaient réunies devant Paris. 700 grandes barques couvraient 2 lieues de la Seine, portant, dit-on, plus de 30 000 hommes. Les chefs furent surpris à la vue des nouvelles fortifications de la ville. Un double mur d'enceinte, les ponts couronnés de tours, et aux environs les remparts des abbayes de Saint-Denis et de Saint-Germain solidement rétablis. Siegfried hésita à attaquer une ville si bien couverte. Il demanda à entrer seul et à voir l'évêque Gozlin. « Prends pitié de toi-même et de ton troupeau, lui dit-il. Permets que nous puissions seulement traverser cette cité. Nous ne toucherons nullement à la ville. Nous nous efforcerons de conserver, à toi et au comte Eudes, tous vos biens. » « Cette cité, répondit l'évêque, nous a été confiée par l'empereur Charles, le roi et le dominateur après Dieu des puissances de la terre. Il nous l'a confiée non pour qu'elle causât la perte du royaume, mais pour qu'elle le sauvât. Si par hasard ces murs avaient été confiés à ta garde comme ils l'ont été à la mienne, ferais-tu ce que tu me demandes de t'accorder ?»« Si jamais je le fais, dit Siegfried, que ma tête soit condamnée à tomber sous le glaive et à servir de pâture aux chiens. Mais si tu ne cèdes à nos prières, dès que le soleil commencera son cours, nos camps lanceront sur toi leurs traits empoisonnés, et quand le soleil finira son cours, ils te livreront à toutes les horreurs de la faim. Et cela, ils le feront tous les ans. » L'évêque persista sans discuter. Il était aussi sûr du comte Eudes que de lui-même. Jeune et nommé récemment comte de Paris, Eudes était le fils aîné de Robert le Fort, comte d'Anjou, issu de la même race que Charlemagne, et tué naguère dans un combat contre les Normands. Paris avait pour défenseur 2 héros, l'un de l'Église, l'autre de l'Empire, la foi du chrétien et la fidélité du vassal, la conscience du prêtre et l'honneur du guerrier. Le siège dura 13 mois. Tantôt ardemment poussé par 8 assauts, tantôt maintenu par un étroit blocus, et avec toutes les alternatives du succès et du revers, tout le mélange des périls éclatants et de souffrances obscures qui peuvent survenir entre des assaillants acharnés et des défenseurs dévoués. Un témoin, non seulement contemporain, mais oculaire, Abbon, moine de Saint-Germain-des-Prés, en a raconté les détails dans un long poème où l'écrivain, dénué de talent, n'ajoute rien au simple tableau des événements. C'est l'histoire même qui donne au poème d'Abbon un plus haut degré d'intérêt. Nous n'avons, sur ces continuelles luttes des Normands avec les populations gallo-franques, aucun document aussi précis, aussi complet, ni qui nous fasse aussi bien connaître tous les incidents, toutes les formes de cette guerre désordonnée de deux peuples, l'un sans gouvernement, l'autre sans patrie. L'évêque Gozlin mourut pendant le siège. Le comte Eudes quitta quelque temps Paris pour aller solliciter le secours de l'empereur, mais les Parisiens le virent bientôt reparaître sur les hauteurs de Montmartre avec 3 bataillons de soldats, et il rentra dans la ville poussant son cheval et frappant de sa hache d'armes à droite et à gauche à travers les assiégeants surpris. La lutte se prolongea pendant l'été. Et lorsqu'en novembre 886, Charles le Gros parut enfin devant Paris avec une grande armée de toutes les nations, ce fut pour acheter la retraite des Normands au prix d'une forte rançon et en leur permettant d'aller hiverner en Bourgogne, dont les habitants n'obéissaient pas à l'empereur. Quelques mois après, en 887, Charles le Gros était déposé dans une diète tenue sur les bords du Rhin par les grands de la France germanique et Arnoul, fils naturel de Carloman, le frère de Louis II, était proclamé empereur à sa place. En même temps, le vaillant défenseur de Paris, le comte Eudes, était élu roi à Compiègne et couronné par l'archevêque de Sens. Guy, duc de Spolt, issu de Charlemagne par les femmes, accourait en France, était déclaré roi à Langres par l'évêque de cette ville et s'en retournait précipitamment en Italie, ne voyant aucune chance de se maintenir dans sa royauté française. D'autre part, le duc d'Arles, Boson, devenait roi de Provence, et le comte bourguignon Rodolphe se faisait couronner à Saint-Maurice, dans le Valais, roi de la Bourgogne transjurane. Il y avait bien en France un carlovingien légitime, un fils de Louis le Bègue, qui devait devenir plus tard Charles le Simple, mais encore enfant, il était repoussé ou bien oublié, et en attendant que son jour arrivât, on faisait partout des rois. Au milieu de cette confusion, les Normands, tout en s'éloignant de Paris, poursuivaient dans la France occidentale leurs courses et leurs ravages. Ils avaient dans Roland un chef bien supérieur à ses vagabonds prédécesseurs. Quoiqu'il menât encore la même vie qu'eux, il y déployait d'autres facultés, d'autres penchants, d'autres desseins. Il avait fait dans sa jeunesse une expédition en Angleterre, et il y avait contracté, avec le sage roi Alfred le Grand, une réelle amitié. Dans une campagne en Frise, il avait fait prisonnier Régnier, comte de Hainaut. Alberade, comtesse de Brabant, fit redemander son mari à Roland en lui offrant la mise en liberté de 12 capitaines normands, ses prisonniers, et tout l'or qu'elle possédait. Roland ne prit que la moitié de l'or et rendit le compte à sa femme. Lorsqu'en 885 il s'empara de Rouen, au lieu de ravager la ville, comme faisaient partout ses pareils, il en respecta les édifices, en fit relever les murailles et en ménagea les habitants. En dépit des habitudes violentes et avides auxquelles il se livrait envers les populations qui lui résistaient obstinément, on pouvait pressentir en lui des sentiments plus généreux et des instincts d'ordre, de civilisation et de gouvernement. Après la déposition de Charles le Gros et pendant le règne d'Eudes, une lutte vive continua entre le roi franc et le chef normand, qui se souvenaient l'un et l'autre de leur premier combat. Ils eurent l'un contre l'autre des fortunes diverses. Eudes battit les Normands à Montfaucon, mais il fut battu dans le Vermandois par une autre bande qui avait, dit-on, repris pour chef le vieux Hastings, naguère comte de Chartres. Roland aussi eut sa part tantôt de succès, tantôt de revers. Mais il s'empara de plusieurs villes importantes, se montra disposé à traiter doucement les populations tranquilles et fit en Angleterre un nouveau voyage dans lequel il renoua avec le roi Athelstan, successeur du grand Alfred, de bonnes relations. Il devint ainsi de jour en jour plus accrédité en même temps que plus redouté en France, si bien qu'Eudes lui-même fut obligé d'avoir recours avec lui aux négociations et aux présents. Lorsqu'en 898, Eudes fut mort, et que Charles le Simple, à peine âgé de 19 ans, eût été reconnu seul roi de France, l'ascendant de Roland devint tel que la nécessité de traiter avec lui fut évidente. En 911, de l'avis de ses conseillers, entre autres de Robert, frère du feu roi Eudes et devenu lui-même comte de Paris et duc de France, Charles envoya au chef normand l'archevêque de Rouen, Francon, chargé de lui offrir la cession d'une partie considérable de la Neustrie et la main de sa jeune fille Gisèle, pourvu qu'il se fît chrétien et se reconnût vassal du roi. De l'avis aussi de ses compagnons, Roland accueillit de bonne grâce ces ouvertures et s'engagea à une trêve de 3 mois, pendant laquelle on traiterait de la paix. Au jour fixé, Charles, accompagné du duc Robert et Roland entouré de ses guerriers, se rendirent à Saint-Clair-sur-Epte, sur les deux bords opposés de la rivière, et échangèrent de nombreux messages. Charles offrit à Roland la Flandre, que le Normand refusa, la trouvant trop marécageuse. Quant à la portion maritime de la Neustrie, il ne voulut pas s'en contenter. Elle était, dit-il, couverte de forêts et devenue étrangère au soc de la charrue à cause des continuelles incursions des Normands. Il demanda qu'on y ajoutât des territoires pris sur la Bretagne et que les princes de cette province, Béranger et Alain, seigneurs l'un de Redon, l'autre de Dole, lui prêta serment de fidélité. L'arrangement ainsi conclu, les évêques dirent à Roland que celui qui recevait un don tel que le duché de Normandie devait baiser le pied du roi. « Jamais, dit Roland, je ne plierai le genou au genou de personne et je ne baiserai le pied de personne. » Sur la sollicitation des Francs, il ordonna alors à l'un de ses guerriers de baiser le pied du roi. Le Normand, restant debout, prit le pied du roi, l'éleva à sa bouche et fit ainsi tomber le roi en arrière, ce qui excita de grands éclats de rire et beaucoup de tumulte parmi la foule. Alors le roi et tous les grands qui l'entouraient, prélats, abbés, ducs et comtes, jurèrent au nom de la foi catholique qu'il protégerait le patrice Roland dans sa vie, ses membres et ses hommes, et qu'il lui garantirait la possession de la terre susdite, ainsi qu'à ses descendants, à perpétuité. Après quoi, le roi satisfait retourna dans ses domaines et Roland partit avec le duc Robert pour la ville de Rouen. La dignité de Charles le Simple n'avait pas de quoi être satisfaite, mais la grande question politique qui, un siècle auparavant, inquiétait si vivement Charlemagne était résolue. Les plus dangereuses, les plus incessamment renouvelées des invasions étrangères, celles des Normands, cessaient de menacer la France. Les pirates vagabonds avaient acquis une patrie à cultiver et à défendre. Les Normands devenaient des Français. Les invasions des Sarrasins dans la Gaule méridionale n'étaient pas près de subir la même transformation. Ils continuaient d'infester l'Aquitaine, la Septimanie et la Provence. Leurs bandes de pillardes apparaissaient fréquemment sur les côtes de la Méditerranée et les rives du Rhône, à Aigues-Mortes, à Marseille, à Arles, dans la Camargue. Elles pénétraient quelquefois dans le Dauphiné, le Rouergue, le Limousin, la Saintonge. J'ai vu, au commencement de ce siècle, dans les montagnes des Cévennes, les ruines des tours qui construisaient, il y a 10 siècles, les habitants de ces âpres contrées pour mettre leurs familles et leurs troupeaux à l'abri des incursions des Sarrasins. Mais ces incursions étaient courtes et le plus souvent tentées par des pillards peu nombreux qui se retiraient précipitamment avec leur butin. L'Afrique n'était pas comme l'Asie, une source inépuisable de nations ardentes à se pousser les unes sur les autres pour aller errer et s'établir ailleurs. Les peuples du Nord marchent volontiers vers les régions du Midi, où la vie est plus facile et plus douce. Les peuples du Midi ne se transportent guère dans le Nord, sur son sol dur à cultiver, sous son ciel gris et au milieu de ses brouillards et de ses glaces. Après avoir pillé dans l'Aquitaine ou la Provence, les Arabes d'Espagne et d'Afrique s'empressaient de repasser les Pyrénées ou la Méditerranée pour aller retrouver leur beau climat et leur oisiveté sans ennui. De plus, entre les chrétiens et les musulmans, l'antipathie religieuse était profonde. Les missionnaires chrétiens ne portaient guère chez les musulmans leur pieuse ardeur, et les musulmans étaient beaucoup moins disposés que les païens à se faire chrétiens. Pour conserver leur conquête, les Arabes d'Espagne avaient à lutter contre les Goths réfugiés dans les Asturies, et Charlemagne, en étendant celle des Francs jusqu'à l'Èbre, avait donné aux Goths chrétiens de puissants alliés contre les musulmans espagnols. Par toutes ces causes, les invasions des Sarrasins dans le Midi de la France ne menaçaient point comme celles des Normands dans le Nord, la sécurité de la monarchie gallo-franque et les populations gallo-romaines du Midi pouvaient défendre à la fois contre les Sarrasins et contre les Francs leur indépendance nationale. C'est ce qu'elles firent avec succès dans le IXe et Xe siècle, et la monarchie française, qui se fondait entre la Loire et le Rhin, en fut quelque temps ébréchée, jamais sérieusement ébranlée. Un peuple nouveau, les Hongrois, seul nom qu'on donna alors aux Magyars, parut à cette époque pour la première fois parmi les dévastateurs de l'Europe occidentale. De l'an 910 à l'an 954, par suite des mouvements et des guerres qui avaient lieu autour du Danube, des bandes hongroises, après avoir parcouru l'Allemagne centrale, pénétrèrent en Alsace, en Lorraine, en Champagne, en Bourgogne, en Berry, en Dauphiné, jusqu'en Provence et même en Aquitaine. Mais cette inondation fut passagère, et si les populations de ces contrées eurent beaucoup à en souffrir, l'État gallo-franc, malgré ses désordres intérieurs et la faiblesse des derniers carlovingiens, n'en fut pas sérieusement compromis. Ainsi, le premier grand dessein de Charlemagne, la sécurité territoriale de l'État gallo-franc et chrétien, était accompli. À l'est et au nord, les populations germaniques et asiatiques qu'il avait si longtemps bouleversées étaient les unes arrêtées sur ses frontières, les autres régulièrement incorporées dans son sein. Au midi, les populations musulmanes qui, au 8e siècle, avaient paru si près de l'envahir étaient impuissantes à lui porter de graves atteintes. Matériellement, la France était fondée. Où en était le second grand dessein de Charlemagne? La résurrection de l'Empire romain par les mains des barbares, ses vainqueurs, devenus chrétiens. Je laisse à Louis le Débonnaire, son nom traditionnel, quoique ce ne soit pas la traduction exacte de celui que lui donnèrent ses contemporains. Il l'appelait Louis le Pieux. Il était pieux, en effet, sincèrement, et même avec scrupule. Mais il était encore plus faible que pieux, faible de cœur et de caractère comme de pensée, sans idée dominante comme sans volonté forte, flottant au gré de ses impressions passagères ou des influences qui l'entouraient ou des embarras de sa situation. Le nom de débonnaire lui convient. Il exprime à la fois sa valeur morale et son incapacité politique. Comme roi d'Aquitaine du temps de Charlemagne, Louis s'y était fait estimer et aimer. Sa justice, sa douceur, sa probité, sa piété plaisaient à la population et ses faiblesses disparaissaient sous la forte main de son père. Devenu empereur, il commença son règne par une réaction contre les excès réels ou prétendus du règne précédent. Charlemagne était de mœurs fort peu régulières et ne s'inquiétait guère des licences de sa famille ou de son palais. Au loin, son pouvoir était exigeant et pesant. Louis établit autour de lui, pour ses propres sœurs comme pour ses serviteurs, une règle austère. Il rendit aux Saxons soumis quelques-uns des droits que Charlemagne leur avait retirés. Il envoya partout ses missi dominici, chargés d'écouter les plaintes et de redresser les griefs, d'adoucir le régime de son père, dur dans son activité et insuffisant à réprimer le désordre, malgré son dessein de l'interdire et sa vigilance à le surveiller. Presque en montant sur le trône, Louis fit un acte plus grave et plus compromettant. Il avait de sa femme Ermengarde trois fils, Lothaire, Pépin et Louis. Âgés alors, l'aîné de 19, les deux autres de 11 et de 8 ans. En 817, Louis réunit à Aix-la-Chapelle l'Assemblée générale de ses États. Et là, tout en déclarant que ni à ceux qui pensaient sagement, ni à lui-même, il ne paraissait convenable de rompre, pour l'amour de ses fils et par une volonté humaine, l'unité de l'Empire conservée par Dieu lui-même, il était résolu d'associer son fils aîné, Lothaire, au trône impérial. Lothaire fut en effet couronné empereur, et ses deux frères Pépin et Louis furent couronnés rois, afin qu'ils régnassent, après la mort de leur père et sous leur frère et seigneur Lothaire, savoir Pépin sur l'Aquitaine et une grande partie de la Gaule méridionale et de la Bourgogne, Louis au-delà du Rhin, sur la Bavière et sur les diverses peuplades à l'orient de la Germanie. Le reste de la Gaule et de la Germanie, ainsi que le royaume d'Italie, devait appartenir à Lothaire, empereur et chef de la monarchie franque, auprès de qui ses frères auraient à se rendre tous les ans pour s'entendre avec lui et recevoir ses instructions. Ce dernier royaume, le plus considérable des trois, restait sous le gouvernement direct de Louis le Débonnaire, en même temps que de son fils Lothaire, associé au titre d'empereur. Les deux autres fils, Pépin et Louis, entrèrent malgré leur jeunesse en prompte possession l'un de l'Aquitaine, l'autre de la Bavière, sous l'autorité supérieure de leur père et de leur frère aîné, tous deux empereurs. Charlemagne avait puissamment maintenu l'unité de l'Empire tout en déléguant à deux de ses fils, Pépin et Louis, le gouvernement de l'Italie et de l'Aquitaine, avec le titre de roi. En réglant d'avance entre ses trois fils le partage de ses états, Louis le Débonnaire voulait aussi, disait-il, maintenir l'unité de l'Empire. Il oubliait qu'il n'était pas Charlemagne. De nombreuses et tristes expériences révélèrent bientôt à quel point l'unité de l'Empire exigeait la supériorité personnelle de l'empereur et combien la décadence de l'édifice serait rapide quand il n'y resterait plus que le titre du fondateur. En 816, le pape Étienne IV vint en France pour sacrer Louis le Débonnaire empereur. Bien des fois déjà, les papes avaient rendu au roi France ce service et cet honneur. Les Francs avaient été fiers de voir leur roi Charlemagne, protecteur d'Adrien Ier contre les Lombards, puis couronné empereur par Léon III, puis faisant sacrer à Rome, encore par le même pape, ses deux fils Pépin et Louis, roi, l'un d'Italie, l'autre d'Aquitaine. Dans ces diverses occasions, tout en témoignant au pape le plus profond respect, Charlemagne, dans ses rapports avec lui, avait toujours pris soin de garder, avec sa grandeur politique, toute sa dignité personnelle. Mais lorsqu'en 816, les Francs virent Louis le Pieux, non seulement aller hors de Rhin au-devant d'Étienne IV, mais se prosterner trois fois devant lui de tout son corps et ne se relever que lorsque le pape lui tendit la main, les spectateurs se sentirent tristes et humiliés à l'aspect de leur empereur dans l'attitude d'un moine repentant. Plusieurs insurrections éclatèrent dans l'Empire, d'abord parmi les Basques d'Aquitaine, puis en Italie, où Bernard, fils de Pépin, devenu roi en 812 de l'aveu de son grand-père Charlemagne, après la mort de son père, ne pouvait se résigner à voir son royaume passer aux mains de son cousin Lothaire par l'ordre de son oncle Louis. Ces deux tentatives furent aisément réprimées. La troisième fut plus grave. Elle eut lieu en Bretagne, parmi ces populations de l'Armorique encore enfoncées dans leurs bois et très jalouses de leur indépendance. En 818, elles se donnèrent pour roi un de leurs principaux chefs nommé Morvan. Et ne se bornant pas à refuser au roi des Francs toute tribu, elles recommencèrent à dévaster les territoires francs voisins de leurs frontières. Louis tenait alors l'assemblée générale de ses états à Aix-la-Chapelle. Le comte Lambert, commandant de la marche de Bretagne, vint lui annoncer ce qui s'y passait. Un moine franc, nommé Didcar, se trouvait dans l'assemblée. Homme pieux, sensé, ami de la paix, et qui de plus connaissait le roi breton Morvan, son monastère ayant des propriétés dans le voisinage. Ce fut lui que l'empereur chargea de porter à ce roi ses griefs et ses demandes. Au bout de quelques journées de marche, le moine passe la frontière et arrive à un vaste espace enclos d'un côté par une belle rivière et de tous les autres par des forêts et des marécages, des haies et des fossés. Au milieu de cet espace était une grande habitation, celle de Morvan. Didcar la trouve pleine de guerriers, ce roi ayant sans doute quelque expédition en vue. Le moine s'annonce comme le messager de l'empereur des Francs. Ce titre trouble d'abord le breton, qui s'empresse toutefois de cacher son émotion sous un air de bienveillance et d'allégresse qu'il impose à ses compagnons. Ceux-ci sont écartés, le roi reste seul avec le moine, qui lui expose l'objet de sa mission. Il célèbre la puissance de l'empereur Louis, rapporte ses plaintes et avertit le breton charitablement en son propre nom du danger de sa situation, danger d'autant plus grand que lui et son peuple seront moins ménagés, vu qu'ils suivent l'ancien culte de leur père païen. Morvan écoutait ses discours avec attention, l'œil attaché à la terre et la frappant du pied de temps à autre. Didcar croyait avoir réussi, mais un incident survient. C'était l'heure où l'épouse de Morvan avait coutume de venir le trouver avant de se rendre dans leur chambre nuptiale. Elle arrive, avide de savoir quel est cet étranger, ce qu'il vient faire, ce qu'il a dit, ce qu'on lui a répondu. Elle prélude à ses questions par des agaceries, par des caresses. Elle baise les genoux, les mains, la barbe, le visage du roi, témoignant son désir de rester seule avec lui. « Roi, gloire des puissants bretons, cher époux, qu'apporte cet étranger? Est-ce la paix? Est-ce la guerre ?»« Cet étranger, lui répond Morvan avec un sourire, est un envoyé des Francs. Mais s'il apporte la guerre ou la paix, c'est l'affaire des hommes. Toi, contente-toi de ton office de femme. » Là-dessus, Didcar, s'apercevant qu'il est contrecarré, dit à Morvan, « Roi, il est temps que je m'en retourne. Dis-moi quelle réponse je dois porter à mon souverain. » « Laisse-moi cette nuit pour en délibérer, » lui répond d'un air irrésolu le chef breton. Le matin venu, Didcar se présente de nouveau à Morvan. Il le trouve debout, mais encore demi-ivre et plein d'autres sentiments que ceux de la veille. Il lui fallut faire quelque effort sur lui-même, étourdi et chancelant comme il l'était du vin et des plaisirs de la nuit, pour dire à Didcar « Retourne à ton roi !» Et dis-lui de ma part que ma terre n'a jamais été la sienne et que je ne lui dois rien, ni tribut, ni soumission. Qu'il règne sur les Francs, moi je règne sur les Bretons. S'il veut m'apporter la guerre, il me trouvera prêt à la lui rendre. » Le moine retourne auprès de Louis le Débonnaire et lui rend compte de sa mission. La guerre est résolue. L'empereur rassemble ses troupes, des Allemands, des Saxons, des Thuringiens, des Bourguignons, des Aquitains, sans compter les Francs ni les Gallo-Romains. Ils se mettent en marche, se dirigeant sur Vannes. Louis est à leur tête, l'impératrice l'accompagne, mais il la laisse à Angers, déjà souffrante et fatiguée. Les Francs entrent dans le pays des Bretons, ils fouillent les bois et les marais, ils ne trouvent point d'hommes armés dans les campagnes ouvertes, ils les rencontrent éparpillés en pelotons peu nombreux, À l'entrée de tous les défilés, sur les hauteurs dominant les sentiers, partout des hommes pouvaient se cacher et attendre le moment de paraître à l'improviste. Les Francs les entendaient du milieu des bruyères et des fougères, poussant des cris aigus pour s'avertir les uns aux autres ou pour épouvanter l'ennemi. Les Francs avancent avec précaution et arrivent enfin à l'entrée des bois épais qui entouraient la demeure de Morvan. Il ne s'était pas encore mis en mouvement avec l'élite des guerriers qu'il avait autour de lui, mais à l'approche des Francs, il appelle sa femme et ses domestiques et leur dit « Défendez bien cette maison et ces bois. Moi, je vais marcher en avant pour rallier mon monde, après quoi je reviens non sans butin et dépouille. » Il s'arme lui-même, prend un trait de chaque main, monte à cheval. « Tu vois, dit-il à sa femme, ces traits que je brandis, je te les rapporterai aujourd'hui même, teint du sang des Francs. Adieu !» Il sort, pénètre suivi des siens à travers l'épaisseur de la forêt, et s'avance à la rencontre des Francs. La bataille s'engage. Le grand nombre des Francs qui couvrent au loin le pays effraient les Bretons. Beaucoup d'entre eux s'enfuient, cherchant où se cacher. Morvan, furieux, à la tête des plus dévoués des siens, se rue sur les Francs comme pour les frapper tous à la fois. Plusieurs tombent sous ses coups. Il remarque un guerrier subalterne, sur lequel il s'élance au galop de son cheval, et l'insultant de la voix, selon l'antique usage des guerriers celtes, « Franc, lui dit-il, je vais te faire mon premier présent, un présent que je te garde depuis longtemps et dont j'espère que tu te souviendras. » Et il lui lance un trait que l'autre reçoit sur son bouclier. « Orgueilleux breton, lui répond le Franc, j'ai reçu ton présent, je vais te faire le mien. » Il pique des deux et pousse son cheval sur Morvan, qui, bien que couvert d'une forte cotte de maille, tombe percé d'un coup de pique. Le Franc n'a que le temps de descendre de cheval, de lui couper la tête et tombe lui-même frappé à mort par un des jeunes guerriers de Morvan, mais non sans avoir à son tour atteint encore celui-ci d'un coup mortel. Le bruit se répand de tous côtés que Morvan est mort. Les Francs se pressent sur le champ de bataille, on relève et on se passe de main en main une tête sanglante horriblement défigurée. Le moine d'Idcar est appelé pour la voir et dire si c'est celle de Morvan. Il est obligé de laver ce chef défiguré et d'en rajuster un peu la chevelure avant de déclarer que c'est celui de Morvan. Plus de doute, la résistance est maintenant impossible. La veuve, la famille, les serviteurs de Morvan arrivent, se présentent à Louis le Débonnaire, acceptent toutes les conditions qu'on leur impose et les Francs se retirent en disant que désormais, la Bretagne est leur tributaire. En arrivant à Angers, Louis trouva l'impératrice Ermengarde mourante. Elle s'éteignit 2 jours après. Il avait le cœur tendre et faible contre la tristesse. Il témoigna le désir d'abdiquer, de se faire moine. On l'en détourna. Il était aisé d'influer sur ses résolutions. Un peu plus tard, on lui conseilla de se remarier. Il s'y prêta. On fit venir plusieurs princesses. Il choisit Judith de Bavière, fille du comte Welf, c'est-à-dire un guelf, famille déjà puissante et plus tard célèbre. Judith était jeune, belle, spirituelle, ambitieuse et habile dans l'art de faire servir le don de plaire à la passion de dominer. Dans son expédition de Bretagne, Louis venait d'assister au fatal empire d'une femme sur son mari. Il était destiné à en donner lui-même un plus éclatant et plus long exemple. En 823, il eut de la nouvelle impératrice Judith un fils qu'il nomma Charles et qui devait être Charles le Chauve. Ce fils devint la passion dominante, sinon exclusive, de sa mère et la source des malheurs de son père. Sa naissance ne pouvait manquer de donner de l'humeur et de la méfiance aux 3 fils de Louis et d'Ermengarde, déjà rois. Ils venaient de faire un peu auparavant une première épreuve de la faiblesse de leur père. En 822, se repentant de sa rigueur envers son neveu Bernard d'Italie, à qui il avait fait crever les yeux pour le punir de sa rébellion, et qui en était mort. Louis se crut obligé d'en faire, à Attigny, dans l'église et devant le peuple, une pénitence solennelle. Acte honnête et pieux, mais dont les détails laissèrent dans l'âme des spectateurs des impressions peu favorables à la dignité et à l'autorité de l'empereur. En 829, dans une assemblée tenue à Worms, cédant aux instances de sa femme, et sans doute aussi à son propre penchant pour son plus jeune fils, il ne tint nul compte de l'acte solennel par lequel, en 817, il avait partagé ses états entre ses 3 fils aînés. Il enleva à deux d'entre eux, en Allemagne et en Bourgogne, quelques-uns des territoires qu'il leur avait assignés, et il en fit la part du jeune Charles. Lothaire, Pépin et Louis se révoltèrent. Les rivalités de la cour se joignirent aux dissensions de famille. L'empereur avait appelé auprès de lui un jeune méridional, Bernard, duc de Septimanie, et fils du comte Guillaume de Toulouse, qui avait vaillamment combattu les Sarrasins. Il en fit son premier camérier, c'est-à-dire chambellan, et son conseiller favori. Bernard était hardi, ambitieux, vaniteux, impérieux, remuant. Il écarta de la cour ses rivaux et mit à leur place ses créatures. On l'accusait non seulement d'abuser de la faveur de l'empereur, mais d'entretenir avec l'impératrice Judith des relations coupables. Il se forma contre lui, et par suite contre l'empereur, l'impératrice et leur jeune fils, une opposition puissante. Des ecclésiastiques éminents, entre autres Walla, abbé de Corbie, cousin Germain et naguère l'un des conseillers intimes de Charlemagne, s'empressèrent d'y entrer. Les uns avaient à cœur l'unité de l'Empire, que Louis brisait de plus en plus, les autres prenaient en main les intérêts spéciaux de l'Église, auxquels, malgré sa piété et par sa faiblesse, Louis laissait souvent porter atteinte. Ainsi fortifiés, les conspirateurs se crurent certains du succès. Ils firent enlever et enfermer l'impératrice Judith dans le monastère de Sainte-Radegonde, à Poitiers. Louis vint lui-même se mettre entre leurs mains, à Compiègne, où ils étaient réunis. Là, ils firent décréter que le pouvoir et le titre d'empereur étaient transférés de Louis à Lothaire, son fils aîné, que l'acte qui avait naguère assigné une part de l'Empire à Charles était annulé, que l'acte de 817 qui avait réglé le partage des États de Louis après sa mort était remis en vigueur. Mais bientôt, une réaction éclata en faveur de l'empereur. Les deux frères de Lothaire, jaloux de sa nouvelle élévation, se rapprochèrent de leur père. Les ecclésiastiques eurent quelque honte de s'être associés à une révolte. Le peuple eut pitié de l'honnête empereur. Une assemblée générale réunie à Nimègue abolit les actes de Compiègne et rendit à Louis son titre et son pouvoir. La révolte ne tarda pas à recommencer. Elle vint cette fois de Pépin, roi d'Aquitaine. Louis le combattit et donna l'Aquitaine à Charles le Chauve. L'alliance des trois fils d'Ermengarde se reforma aussitôt. Ils levèrent une armée. L'empereur marcha contre eux avec la sienne. Les deux parties se rencontrèrent entre Colmar et Bâle, dans un lieu appelé le Champ Rouge. Des négociations s'ouvrirent entre eux. On demandait à Louis d'abandonner sa femme Judith et son fils Charles et de se mettre sous la tutelle de ses fils aînés. Il refusa, mais au moment où la lutte était près de s'engager, la défection se mit dans l'armée de Louis. La plupart des prélats, des laïcs et des hommes d'armes qui l'avaient accompagné passèrent dans le camp de Lothaire. Le champ rouge devint le champ du mensonge. Resté presque seul, Louis ordonna à ses serviteurs de s'éloigner, ne voulant pas, dit-il, qu'aucun d'eux perdît pour lui la vie ou les membres, et il se rendit à ses fils. Ils le reçurent avec de grandes démonstrations de respect, mais en poursuivant leur entreprise. Lothaire réunit en hâte une assemblée qui le proclama empereur, en ajoutant divers territoires au royaume d'Aquitaine et de Bavière. Et trois mois après, une autre assemblée, réunie à Compiègne, déclara l'empereur Louis déchu de la couronne pour avoir, par ses fautes et son incapacité, laissé tristement déchoir l'empire qu'avait agrandi et amené à l'unité Charlemagne et ses prédécesseurs. Louis se soumit à cette décision, lut lui-même à haute voix dans l'église de Saint-Médard de Soissons, non sans quelque résistance, une confession en 8 articles de ses fautes. Et déposant son baudrier sur l'autel, il se dépouilla de l'habit royal et reçut des mains d'Ebon, archevêque de Reims, le vêtement gris des pénitents. Lothaire croyait son père bien détrôné et lui-même désormais seul empereur. Il se trompait. Pendant 6 ans encore, les scènes que je viens de retracer se reproduisirent à plusieurs reprises. Les rivalités et les trames secrètes entre les trois frères vainqueurs et leurs partisans recommencèrent. Le sentiment populaire se réveilla en faveur de Louis. Une grande partie du clergé s'y associa. Plusieurs comtes de Neustrie et de Bourgogne parurent en armes au nom de l'empereur déposé. La séduisante et habile Judith rentra en scène et regagna à la cause de son mari et de son fils de nombreux amis. En 834, 2 assemblées réunies l'une à Saint-Denis, l'autre à Thionville, annulèrent tous les actes de l'assemblée de Compiègne et remirent pour la troisième fois Louis en possession du titre et du pouvoir impérial. Il en usait sans violence, mais de plus en plus irrésolu et faible dans son triomphe. Lorsqu'en 838, le second de ses fils, rebelle, Pépin, roi d'Aquitaine, mourut subitement. Toujours dominé par Judith, Louis s'empressa de convoquer à Worms, en 839, une nouvelle et dernière assemblée générale, dans laquelle, laissant son fils Louis de Bavière réduit à son royaume d'Europe orientale, il divisa le reste de ses états en deux parts à peu près égales, séparées par le cours de la Meuse et du Rhône. Entre ces deux parts, il laissa le choix à Lothaire, qui prit la partie orientale, en promettant de garantir la partie occidentale à son jeune frère Charles. Louis le Germanique protesta contre ce partage et s'arma pour y résister. L'empereur son père se mit en marche vers le Rhin pour le contraindre à la soumission. Mais arrivé près de Mayence, une fièvre violente le saisit et il mourut le 20 juin 840 au château d'Ingenheim, dans une petite île du fleuve. Ses derniers actes furent un nouveau témoignage de sa bonté envers tous ses fils, même rebelles, et de sa sollicitude pour le dernier. Il envoya à Louis le Germanique son pardon et à Lothaire la couronne et l'épée d'or en lui recommandant d'exécuter les volontés de son père pour Charles et Judith. Je ne sais si, dans sa crédule bonté, Louis eut à sa dernière heure grande confiance dans la recommandation qu'il adressait à son fils Lothaire et dans l'impression que ferait sur son autre fils, Louis de Bavière, le pardon qu'il lui accordait. Les prières des mourants sont faibles devant des passions violentes et des mœurs barbares. À peine Louis le Débonnaire était-il mort, que Lothaire conspirait déjà contre le jeune Charles et s'alliait secrètement pour le dépouiller avec Pépin II, fils du feu roi d'Aquitaine, qui avait pris les armes pour se saisir du royaume de son père, dont son grand-père Louis n'avait pas voulu lui confirmer la possession. Charles apprit tout à coup que sa mère Judith était près d'être assiégée dans Poitiers par les Aquitains, et malgré les protestations amicales que lui envoyait Lothaire, il ne tarda pas à découvrir le complot formé contre lui. Il ne manquait ni de finesse ni d'activité. Il pourvut d'abord à la sûreté de sa mère, puis il entreprit, au nom de leurs intérêts communs, d'entrer en alliance avec son autre frère, Louis le Germanique, que l'ambition de Lothaire menaçait également. Les historiens du temps ne disent pas quel négociateur employa Charles dans cette lointaine et délicate mission. Mais plusieurs circonstances indiquent que l'impératrice Judith s'en chargea elle-même, qu'elle alla trouver le roi de Bavière et que ce fut elle qui, avec sa grâce et sa dextérité accoutumée, le détermina à s'unir avec son plus jeune frère pour résister en commun à leur frère aîné. Divers incidents retardèrent pendant un an l'explosion de cette conspiration de famille et de guerre qu'elle préparait. La situation du jeune roi Charles parut quelque temps très mauvaise. Mais quelques chefs, dit l'historien Métard, fidèles à sa mère et à lui, et n'ayant plus rien à perdre que la vie et les membres, choisirent de mourir glorieusement plutôt que de trahir leur roi. L'arrivée de Louis le Germanique avec ses troupes vint relever la force et la confiance de Charles. Ce fut le 21 juin 841, précisément un an après la mort de Louis le Débonnaire, que les deux armées, celles de Lothaire et de Pépin d'Aquitaine d'une part, celle de Charles le Chauve et de Louis le Germanique de l'autre, se trouvèrent en présence aux environs du village de Fontenaille, à 6 lieues d'Auxerre, sur le ruisseau d'Audry. Jamais, à ce qu'il paraît, depuis la bataille des plaines de Châlons contre les Huns et celle de Poitiers contre les Sarrasins, de si grandes masses d'hommes n'avaient été aux prises. « Il n'y aurait point d'invraisemblance, dit le scrupuleux M. Fauriel, à porter leur nombre total à 300 000 combattants. » Et rien n'indique que l'une des deux armées fût beaucoup plus nombreuse que l'autre. Quoi qu'il en soit, les chefs hésitèrent pendant 4 jours à en venir aux mains. Et pendant qu'ils hésitaient, l'ancien favori non seulement de Louis le Débonnaire, mais aussi selon plusieurs chroniques de l'impératrice Judith, se tenait à l'écart dans le voisinage avec ses propres troupes, ayant également promis son secours à l'un et à l'autre parti, et attendant pour se décider entre eux les perspectives du premier conflit. La bataille s'engagea le 25 juin à la pointe du jour, et elle commença heureusement pour Lothaire. Mais les troupes de Charles le Chauve reprirent l'avantage que celle de Louis le Germanique avait perdu, et l'action ne fut bientôt plus qu'un carnage d'une terrible simplicité entre deux énormes masses d'hommes, s'abordant corps à corps à plusieurs reprises sur un front de deux lieues de développement. Avant midi, carnage, pillage, spoliation des morts, tout était fini. La victoire de Charles et de Louis était complète. Les vainqueurs étaient rentrés dans leur camp, et il ne restait plus sur le champ de bataille que des cadavres entassés par monceaux ou étendus à la file, selon qu'ils étaient tombés dans le désordre de la fuite ou en combattant de pied ferme à leur rang. « Que ce jour soit maudit !» s'écrit dans de sauvages rimes latines Angilbert, l'un des officiers de Lothaire. « Qu'il ne compte plus dans le retour de l'année, mais qu'il soit effacé de tout souvenir, qu'il soit privé de l'éclat du soleil, qu'il n'ait ni aurore ni crépuscule, qu'elle soit aussi maudite cette nuit affreuse où tombèrent les braves les mieux instruits au combat. Jamais il n'y eut pire carnage. Les chrétiens tombèrent dans des flots de sang. Les vêtements de lin des morts blanchissaient la campagne comme la blanchissent les oiseaux d'automne. » Malgré cette bataille qui semblait décisive, Lothaire fit d'ardents efforts pour continuer la lutte. Il parcourut les contrées où il espérait trouver des partisans. Il promit aux Saxons le libre rétablissement de leur culte païen, et plusieurs des tribus saxonnes répondirent à son appel. Instruits de ses préparatifs, Louis le Germanique et Charles le Chauve résolurent de renouveler solennellement leur alliance. Et 7 mois après leur victoire de Fontenailles, en février 842, ils se rendirent tous deux, chacun avec son armée, à Argentaria, sur la rive droite du Rhin, entre Bâle et Strasbourg, et là, réunis en plein air, Louis s'adressant le premier en langue germanique au chef qui l'entourait. « Vous savez tous, leur dit-il, combien de fois, depuis la mort de notre père, Lothaire nous a attaqués pour nous détruire, ce mien frère et moi. N'ayant jamais pu, comme frère et chrétien, ni par aucune voie équitable, obtenir de lui la paix, nous avons été contraints d'en appeler au jugement de Dieu. Lothaire vaincu s'y retirait où il a pu avec les siens, car nous, retenus par la tendresse paternelle et touchés de compassion pour le peuple chrétien, nous n'avons pas voulu les exterminer en les poursuivant. Nous n'avons demandé alors, comme auparavant, nulle autre chose sinon que chacun de nous fût maintenu dans son droit. Mais lui, rebelle au jugement de Dieu, ne cesse de nous attaquer comme des ennemis, ce mien frère et moi. Et il détruit nos peuples par le feu, le pillage et le carnage. C'est la cause qui nous a de nouveau réunis, et comme nous pensons que vous doutez de la solidité de notre alliance et de notre union fraternelle, nous avons résolu de nous lier de nouveau par ce serment en votre présence, n'agissant point en cela par l'attrait d'une unique cupidité, mais seulement pour assurer notre commun avantage, dans le cas où, par votre aide, Dieu nous ferait obtenir la paix. Si donc je viole jamais, et Dieu m'en garde, ce serment que je vais prêter à mon frère, je vous tiens tous quittes de soumission envers moi et de la foi que vous m'avez jurée. » Charles répéta mot pour mot ce discours à ses propres troupes, en langue romane, dans cet idiome né du mélange du latin et des langues de l'ancienne Gaule, et parlé dès lors avec des variétés de dialectes et de prononciations dans presque toutes les parties de la Gaule franque. Après cette allocution, Louis prononça, et Charles répéta après lui, chacun dans sa langue, le serment conçu en ces termes. « Pour l'amour de Dieu, pour le peuple chrétien, et pour notre commun salut, de ce jour en avant, et tant que Dieu me donnera pouvoir et savoir, je défendrai ce mien frère, et lui serai en aide en toutes choses, ainsi que l'on doit défendre son frère, pourvu qu'il agisse de même envers moi, et je ne conclurai jamais avec Lothaire aucun arrangement qui soit, à mon escient, au dommage de ce mien frère. » Quand les deux frères eurent ainsi juré, les deux armées, chefs et soldats, prêtèrent à leur tour un serment analogue, se portant en masse garant des engagements de leur roi. Puis ils s'établirent tous pendant quelque temps entre Worms et Mayence, et firent succéder à l'acte politique des fêtes militaires, avant-coureurs des tournois chevaleresques du Moyen-Âge. « On se donnait rendez-vous, dit l'historien contemporain Nithard, dans un emplacement convenable à ce genre d'exercice. Là, on disposait d'un côté un certain nombre de combattants, saxons, vascons, austrasiens ou bretons. On plaçait du côté opposé un pareil nombre de guerriers, et les deux parties s'avançaient l'un contre l'autre comme pour s'attaquer. Les uns, le bouclier au dos, fuyaient comme cherchant dans le gros des leurs un abri contre ceux qui les poursuivaient, puis tout à coup, faisant volte-face, ils s'élançaient à la poursuite de ceux devant lesquels ils venaient de fuir. Ce jeu durait jusqu'à ce qu'enfin les deux rois paraissant avec toute la jeunesse de leur cortège arrivassent au galop de leurs chevaux, brandissant la pique et poursuivant tantôt ceci, tantôt cela. C'était un beau spectacle de voir tant de modération parmi tant de vaillantes gens, car dans une si grande multitude et un si grand mélange de nations diverses, personne n'était injurié ni maltraité, ce qui arrive fréquemment entre des hommes en petit nombre et se connaissant tous les uns les autres. Après 4 ou 5 mois de tentatives ou d'incidents qui firent sentir aux deux parties qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre espérer de détruire complètement leurs adversaires, les deux frères alliés reçurent à Verdun, où ils s'étaient rendus pour se concerter sur leur conduite prochaine, un messager de Lothaire qui leur apportait des propositions de paix qu'ils ne voulurent pas repousser. La principale était qu'à l'exception de l'Italie, de l'Aquitaine et de la Bavière, assurés sans contestation à leurs possesseurs actuels, l'Empire franc serait divisé en 3 parts, que les arbitres préposés à ce partage jureraient de faire aussi égal que possible et entre lesquelles Lothaire aurait le choix à titre d'empereur. Vers la mi-juin 842, les 3 frères se rencontrèrent dans une île de la Saône près de Châlons, où ils commencèrent à débattre les questions qui les divisaient. Et ce ne fut qu'un an après, au mois d'août 843, que, réunis tous 3 à Verdun avec leurs arbitres, ils s'accordèrent enfin sur le partage de l'Empire franc, sauf les 3 contrées que, d'avance, on était convenu d'en accepter. Louis garda toutes les provinces de la Germanie dont il était déjà en possession, et il reçut en outre, sur la rive gauche du Rhin, les villes de Mayence, de Worms et de Spire avec leur territoire. Lothaire eut pour lui la zone orientale de la Gaule, limitée d'un côté par le Rhin et les Alpes, de l'autre par les cours de la Meuse, de la Saône et du Rhône, à partir du confluent de ces 2 derniers fleuves, plus le pays compris entre la Meuse et l'Escaut, avec quelques comtés situés à l'ouest de cette rivière. À Charles échut tout le reste de la Gaule, la Vasconie ou Biscaye, la Septimanie, la Marche d'Espagne au-delà des Pyrénées, et les autres contrées de la Gaule méridionale, qui avaient eu jusque-là, sous le nom de Royaume d'Aquitaine, un gouvernement particulier, subordonné au gouvernement général de l'Empire, mais distinct, perdirent ce dernier reste de leur nationalité gallo-romaine et devinrent partie intégrante de la Gaule franque, échue en partage à Charles le Chauve et formant un seul et même royaume sous un seul et même roi. Ainsi échoua et disparut en 843 devant le traité de Verdun, le second des grands desseins de Charlemagne, la résurrection de l'Empire romain par les Francs, maîtres de la Gaule et chrétiens. Le nom d'empereur conserva encore dans l'esprit des peuples une certaine valeur et resta pour les princes un objet d'ambition, mais l'Empire fut complètement aboli et à sa place s'élevèrent 3 royaumes indépendants l'un de l'autre, sans connexion ni relation nécessaire. L'un des 3 fut dès lors la France. 2 faits sont contenus dans ce grand événement: la disparition de l'Empire et la formation des 3 royaumes qui prirent sa place. Le premier est facile à expliquer. La résurrection de l'Empire romain avait été le rêve de l'ambition et de l'ignorance d'un grand homme barbare. L'unité politique et le pouvoir central absolu étaient les caractères essentiels de cet empire. Il s'était introduit et établi par une longue suite de siècles sur les ruines de la brillante République romaine tuée par ses discordes à la faveur de l'influence encore grande du vieux Sénat romain, quoique avili, et sous la garde des légions romaines et des prétoriens impériaux. Aucune de ces conditions, aucune de ces forces ne se rencontrait dans le monde romain où régnait Charlemagne. La nation des Francs et Charlemagne étaient de la veille. Le nouvel empereur n'avait ni ancien sénat pour le couvrir en lui obéissant, ni vieilles troupes pour le soutenir. L'unité politique et le pouvoir absolu répugnaient également à l'état intellectuel et social, aux mœurs nationales et aux sentiments personnels des barbares vainqueurs. La nécessité de mettre leur conquête à l'abri de barbares nouveaux et l'ascendant personnel de Charlemagne valurent seuls à son gouvernement un succès momentané d'unité et de despotisme factice sous le nom d'Empire. En 814, Charlemagne avait satisfait à la sécurité territoriale. Son pouvoir personnel disparut avec lui. La nouvelle société gallo-franque reprit, sous la puissante mais lente influence du christianisme, son cours propre et naturel. La dislocation en diverses sociétés locales et les luttes hardies des libertés individuelles, soit entre elles, soit contre quiconque essayait de se rendre leur maître. Quant au second fait, la formation des trois royaumes issus du traité de Verdun, on en a donné diverses explications. On a attribué cette distribution de quelques peuples de l'Europe occidentale en trois groupes distincts et indépendants, italiens, allemands et français, tantôt à la diversité des histoires et des mœurs, tantôt à des causes géographiques et à ce qu'on appelle l'empire des frontières naturelles, plus souvent encore à l'esprit de nationalité et à la variété des langues. Je ne conteste aucune de ces causes, elles ont toutes exercé une certaine influence, mais elles sont toutes incomplètes et trop systématiques. Il est vrai que l'Allemagne, la France et l'Italie commencèrent alors à sortir du pêle-mêle où les invasions barbares et les conquêtes de Charlemagne les avaient plongés et à se constituer en nations bien distinctes. Mais il y avait dans chacun des royaumes de Lothaire, de Louis le Germanique et de Charles le Chauve des populations de races, de langues, de mœurs et d'affinités géographiques très diverses. Et il a fallu de bien grands événements et bien des siècles pour leur faire acquérir la mesure d'unité nationale qu'elle possède aujourd'hui. Je ne dis rien de l'action des forces individuelles et libres, toujours si grandes, quoique tant d'hommes d'esprit la méconnaissent aujourd'hui. Que fût-il arrivé si l'un des trois nouveaux rois, Lothaire ou Louis le Germanique ou Charles le Chauve, eût été un second Charlemagne, comme Charlemagne avait été un second Charles Martel, et qui pourrait dire que, dans ce cas, les trois royaumes se seraient formés tels qu'ils le furent en 843. Heureusement ou malheureusement, il n'en fut point ainsi. Aucun des successeurs de Charlemagne ne fut capable d'exercer sur les événements de son temps, en vertu de sa pensée et de sa volonté propre, une notable influence. Non qu'ils aient tous été inintelligents ou timides ou indolents. Vous venez de voir que les vertus et les bonnes intentions ne manquaient pas à Louis le Débonnaire. Charles le Chauve était clairvoyant, adroit et actif. Il avait le goût de l'instruction et de la distinction intellectuelle. Il aimait et protégeait les savants et les lettrés, si bien qu'au lieu de dire, comme sous Charlemagne, l'école du palais, on appelait le palais de Charles le Chauve le palais de l'école. Parmi les 11 rois qui montèrent après lui sur le trône carlovingien, plusieurs tels que Louis III et Carloman, surtout Louis d'Outremer et Lothaire, se montrèrent en plusieurs occasions actifs et courageux. Les rois élus à cette époque en dehors de la dynastie carlovingienne, Eudes en 887 et Raoul en 923, firent preuve d'une vaillance habile et efficace. Les carlovingiens ne finirent point comme les mérovingiens dans une retraite monacale ou dans une inertie honteuse. Même le dernier d'entre eux, et le seul qu'on ait qualifié de fainéant, Louis V, se préparait quand il mourut à une expédition en Espagne contre les Sarrasins. Ce qui est vrai, c'est que médiocres ou indécis ou étourdis, ils subirent tous, au-dedans comme au-dehors, sans initiative comme sans résistance, le cours des événements, et qu'en 987, la chute de la race carlovingienne fut la conséquence naturelle et facilement accomplie du nouvel état social qui s'était préparé en France sous son empire.